poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et sur notre site internet radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Voici le sommaire de cette émission. Nous commencerons donc par les nouvelles locales, en insistant particulièrement sur la kermesse qui aura lieu à la fin de cette semaine. Nous parlerons de la presse protestante avec un article sur l'inspection luthérienne parisienne. Et puis nous parlerons du dossier du mensuel régional Le CEP. Nous parlerons du Conseil œcuménique et de sa place dans la COP29 en Azerbaïdjan. Nous parlerons du dîner des protestants. Et enfin, nous terminerons par un événement dans le monde de l'édition, la parution d'un livre éthique de la sainteté de Jacques Ellul, livre non encore édité. J'ajoute que si vous souhaitez réagir à cette émission, sur le fond comme sur la forme, c'est tout à fait possible. Il vous suffit d'écrire à Christian Delors, Radio Alliance Plus, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à mon attention à christiandelors@radioallianceplus.fr. Un certain nombre d'activités organisées par l'Église protestante unie de Nîmes se déroulent à la Maison du protestantisme. C'est donc par là que nous allons commencer. Cette maison s'est située au centre-ville, 3 rue Claude Brousson, dans le quartier de la Maison Carrée. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à midi et l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à midi. Cela dit, les horaires seront modifiés cette semaine en raison de la grande kermesse de l'Église protestante unie de Nîmes qui commencera vendredi matin 22 novembre pour se terminer le lendemain soir, samedi 23 novembre. La fête se terminera le lendemain, dimanche 24 novembre, avec le culte de la cité qui sera célébré au temple de l'Oratoire à 10h30. Pour la kermesse 2024, les organisateurs nous proposent des clés pour ouvrir les portes de la rencontre. Comme chaque année, l'aumônerie des hôpitaux et maisons de retraite organise un espace convivial dans le petit temple. Venez vous y reposer quelques instants, discuter avec des amis, rencontrer de nouvelles personnes et peut-être, pourquoi pas, vous proposer pour devenir visiteur ou visiteuse d'hôpital ou de maison de retraite. Les personnes isolées par la maladie et ou le grand âge ont vraiment besoin de visites et de présence. Quel beau témoignage que celui de visiter son prochain! Passez aussi au stand des éclaireuses et éclaireurs unionistes où vous trouverez leur calendrier dont la vente leur permet chaque année de réaliser un projet. Comme l'an dernier, ils animeront un feu de camp devant le petit temple pour nous faire chanter. D'autre part, la gastronomie. À tout moment de la journée, venez vous restaurer au snacking du petit temple, au salon de thé de la maison du protestantisme. Achetez des plats cuisinés pour vos repas en famille ou alors déjeuner vendredi et samedi dans le hall. Surtout, n'oubliez pas, samedi à midi, le bar à tapas, principalement préparé et servi par les messieurs et où le tout Nîmes se bouscule avec plaisir. Ouvrez aussi les portes de la bonne affaire. En entrant au petit temple, précipitez-vous au stand des confitures où il y en a pour tous les goûts, sans parler de la fameuse confiture de châtaigne dont les pots partent à grande vitesse. Puis, on pense à boire, voici le vin d'orange et le limoncello. On arrive devant les célèbres oreillettes, production de la paroisse de la Fraternité. Dépêchez-vous d'en acheter, il n'y en aura pas pour tout le monde. À l'épicerie fine, on peut faire le plein pour des repas de fête. Tous les autres stands vous proposent des merveilles, cela dépend de vos envies. On peut essayer une veste ou un pantalon au stand vintage, trouver de nombreux cadeaux pour nos enfants et petits-enfants. Venez faire des bonnes affaires au stand où tout est bon marché. N'oubliez pas les fleurs et les livres. Ensuite, il faut absolument passer à la maison du protestantisme pour chiner à la brocante. Là se trouvent de petites merveilles héritées des intérieurs de certains paroissiens. Pour terminer votre marché, retournez au petit temple, au centre de la nef, pour acheter quelques objets souvenirs estampillés de l'Église protestante unie de Nîmes. Des tote bags, des mugs, des magnets, des puzzles, etc. Ouvrez les portes de la musique, enfin samedi à 16h pour conclure ces deux journées de fête. Venez tous au petit temple pour écouter et apprécier le concert du désormais très célèbre groupe Les Mélonymes. Enfin, la méditation. Pour compléter ces deux belles journées de kermesse, rendez-vous dimanche 24 novembre à 10h30 au Temple de l'Oratoire pour vivre ensemble le culte de la cité, grand moment de la ville de Nîmes. Il sera présidé par le pasteur Christophe Singer, doyen de la faculté de théologie de Montpellier. Dans la presse protestante. Le mensuel régional de l'Église protestante unie de France en Cévennes-Languedoc-Roussillon, le mensuel Le CEP, nous propose ce mois-ci, dans la rubrique L'Église protestante unie de France et ses régions, un article sur l'inspection luthérienne de Paris. Cet article est présenté par Laza Numendanari, inspecteur ecclésiastique. Un peu d'histoire. L'inspection ecclésiastique luthérienne de Paris, créée au milieu du XIXe siècle, est l'héritière des chapelles des ambassades de Suède et du Danemark, présentes à Paris sous l'Ancien Régime. Jusqu'à son entrée dans l'Église protestante unie de France en 2013, elle constituait, avec celle de Montbéliard, l'une des deux régions de l'Église évangélique luthérienne de France. Son unique lieu de culte jusqu'en 1843, l'église des Billettes, située dans le quartier de l'Hôtel de Ville, 4e arrondissement de Paris, elle doit son essor à un courant de réveil accompagnant un souci constant pour la diaconie et les œuvres sociales dès les années 1840, et aussi à sa fidélité à la confession de foi luthérienne. À partir de 1843, des paroisses et des œuvres virent le jour dans les faubourgs parisiens, puis en périphérie de la capitale, et sa mission intérieure, destinée à évangéliser les Allemands immigrés, créa aussi de nombreux postes missionnaires. Cette région ecclésiastique spécifique compte aujourd'hui 20 lieux de culte en Île-de-France. Si elle représente d'abord une circonscription régionale avec ses structures, synodes annuels, paroisses, l'inspection ecclésiastique luthérienne est également une communauté de foi basée sur les livres symboliques du luthéranisme. Comme elle fait partie intégrante de l'Église protestante unie de France, elle est donc de ce fait membre de la Fédération luthérienne mondiale et naturellement de la Fédération protestante de France. Actualité des dernières années, après la période difficile de la Covid, la vie régionale, avec son rythme d'un synode annuel, a repris son cours, plus confiante mais encore teintée des allures de la prudence. Au cours des dernières années sont arrivés quelques nouveaux pasteurs. Actuellement, l'inspection de Paris dispose de 10 pasteurs en activité. Le 31 octobre 2021, fête de la Réformation, a été célébrée la fête de la dédicace de la nouvelle église de l'unité de Noisy-le-Grand, construite avec talent, inventivité et sens de la fonctionnalité par l'architecte Marc Rollinet, en dialogue avec le pasteur Jean-Pierre Anzala, le conseil presbytéral et les paroissiens. Temps fort et mémorable pour l'inspection, le culte de dédicace, terme d'année de persévérance, a ouvert également l'avenir d'une présence chrétienne dans la région est parisienne. L'inspection a aussi inauguré de nouveaux locaux administratifs partagés avec la région parisienne réformée. Cette proximité de travail permet des échanges, fait naître des projets missionnaires communs et parfois des conseils régionaux partagés. L'inspection de Paris a aussi vu avec joie le dynamisme des activités des structures qui participent à la vie régionale. L'entraide luthérienne, qui reste toujours aussi importante pour nos actions diaconales, la mission intérieure par ses initiatives au service des paroisses, la mission jeunesse, qui reste toujours très active, et le jumelage Paris-Munich, qui a repris les visites croisées avec une vigueur vivifiante après la période de pandémie. Si globalement les années passées ont été positives pour l'inspection de Paris, il reste que ses énergies sont essentiellement concentrées sur la vie interne de ces communautés ou de l'inspection. À l'heure où les sociétés occidentales traversent une crise, une mutation profonde de leur spiritualité, ce serait pourtant un devoir de faire entendre la voix chrétienne, protestante et luthérienne à l'extérieur de leurs églises. C'était donc une présentation de l'inspection luthérienne de Paris qui fait partie de l'Église protestante unie de France. Je voudrais enfin rappeler que le dossier du mensuel Le CEP du mois de novembre porte sur le thème « Où sont les limites ?». Ce dossier fera l'objet d'une émission spéciale « Voix d'Église » réalisée en collaboration avec Fréquence Protestante, FM+, et Radio Grille Ouverte à Alès. Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises portera un message moral fort à la COP29, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se déroule du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Lors de ce rassemblement clé, le Conseil œcuménique des Églises défendra une action climatique axée sur la justice, appelant à un financement réel des efforts climatiques, à protéger les communautés les plus touchées par les changements climatiques et à sortir rapidement des combustibles fossiles. Le pasteur Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, a souligné l'urgence éthique du moment. En qualité de personne de foi, nous croyons que lutter contre la crise climatique relève non seulement de la nécessité scientifique, mais aussi de l'obligation morale ancrée dans les valeurs chrétiennes de justice et de compassion. Nous exhortons les nations développées à prêcher par l'exemple, en reconnaissant leurs responsabilités historiques et en soutenant une réponse mondiale satisfaisant les besoins des plus vulnérables, honorant la création de Dieu et appuyant notre attachement à prendre soin les uns et les unes des autres. Lors de la COP29, le Conseil œcuménique des Églises appelle les nations développées à réduire drastiquement les émissions de combustibles fossiles. Il souligne également l'urgence de renforcer les financements en faveur du climat pour aider les communautés touchées par les impacts climatiques, notamment celles qui ont le moins de ressources pour s'adapter. Le Conseil œcuménique des Églises exhorte également les responsables mondiaux à traiter les répercussions profondes des changements climatiques en dehors de la sphère économique, telles que la perte culturelle et le traumatisme qui touchent de manière disproportionnée les populations autochtones et les communautés vulnérables. La directrice de la Commission sur la justice climatique et le développement durable du Conseil œcuménique des Églises, Athena Peralta, a fait observer que les conséquences des changements climatiques vont au-delà des dommages physiques. Elles ébranlent le cœur même des communautés, sapant le patrimoine culturel et l'identité spirituelle, notamment des populations autochtones. Et elle a ajouté « Les cadres de financement climatique doivent tenir compte de ces pertes intangibles tout en respectant et protégeant les connaissances autochtones qui sont vitales pour des solutions climatiques résilientes. » La délégation du Conseil œcuménique des Églises, composée de représentants et représentantes de différentes régions, œuvre en étroite collaboration avec des partenaires religieux et de la société civile, notamment l'Alliance ACT, la Fédération luthérienne mondiale et le Comité de liaison interreligieux auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique que le Conseil œcuménique des Églises co-préside. Par leur engagement œcuménique et interreligieux, ils cherchent à promouvoir l'appel collectif à une action climatique juste et effective et à faire en sorte que les engagements pris par la COP29 reposent sur l'équité, la redevabilité et la compassion. Le dîner des protestants. Le dîner des protestants, mais qu'est-ce que c'est ? La Fédération protestante de France et le Cercle Charles Gide, avec le soutien de la Fondation du protestantisme, organisent la 4e édition du dîner des protestants le lundi 2 décembre prochain, en présence de représentants de l'État, sur le thème « L'engagement des protestants pour une société plus fraternelle ». Cet événement mettra en avant celles et ceux qui incarnent cette fraternité essentielle mais fragilisée par la montée des violences. Ce dîner philanthropique vise aussi à lever des fonds pour les œuvres sociales protestantes, notamment par le prix Charles Gide, qui soutient des associations de la Fédération de l'entraide protestante. La soirée aura lieu à la Maison de la Mutualité à Paris, donc le 2 décembre, dès 18h30. Un événement dans le monde de l'édition. Jeudi prochain sortira « Éthique de la sainteté », livre inédit du penseur protestant Jacques Ellul, paraissant 30 ans après la mort de son auteur, aux éditions Labor et Fides et Olivetan. À cette occasion, une soirée sera organisée à l'Institut protestant de théologie à Paris. Deux spécialistes de Jacques Ellul interviendront, Stéphane Lavignotte et Frédéric Rognon. Le débat qui suivra sera animé par le professeur Marc Boss. Soyez saints, car je suis saint. Lévitique 19, verset 2, dit le Dieu de la Bible. Quel sens peuvent prendre ces paroles dans notre contexte d'aujourd'hui, en particulier dans la société technicienne ? Pour le saisir, Jacques Ellul se propose d'opposer radicalement « saint » et « sacré », afin d'entrer dans une désacralisation de toutes nos idoles modernes, pouvoir, état, argent, technique. Au moyen de commentaires détaillés du Lévitique, du Sermon sur la montagne et des paraboles évangéliques du royaume, il définit précisément ce que peut être la vocation d'un chrétien au XXIe siècle. En débat avec Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, René Girard, Jean Ansaldi, Emmanuel Lévinas et bien d'autres auteurs majeurs, Jacques Ellul synthétise avec bonheur son œuvre pléthorique et nous offre des développements tout à fait novateurs sur des thématiques inédites. Rédigé intégralement à la main, non édité de son vivant faute de temps, cette pièce maîtresse s'inscrit dans une œuvre éthique conçue pour se déployer sur 4 plans. Une introduction, Le vouloir et le faire, 1964, Les sources de l'éthique chrétienne, 2018, Une éthique de la liberté, Éthique de la liberté, 1975, 2019, Les combats de la liberté, 1984-2020, Une éthique de la sainteté, 2024, et finalement Une éthique de l'amour que l'auteur, qui a manqué de temps pour l'entreprendre, nous laisse comme en creux dans son héritage. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusée le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant.